Philippe Vandel est de retour avec sa série des Pourquoi pour répondre à toutes vos questions sur les Jeux Olympiques.
Il y en a tellement. Pourquoi un joueur de foot ne peut pas retirer son maillot pour célébrer un but? Pourquoi l'équitation est-elle la seule épreuve mixte des Jeux Olympiques? Et d'ailleurs, pourquoi certains sports sont-ils olympiques et pas d'autres? Des questions évidentes, mais des réponses étonnantes. Plongez avec moi dans l'univers fascinant des Jeux Olympiques et du sport.
Les Pourquoi des Jeux Olympiques, un livre surprenant de Philippe Vandel, aux éditions Kerrow.
Vous écoutez
RMC. Le film RMC de la Coupe du Monde, Jean-Louis Tour.
Petit Papa Noël, quand tu descendras du ciel avec des jouets par milliers.
Salut à tous, on est ravis de vous retrouver, vous avez compris, hein, c'est la journée des cadeaux sur RMC, on est le 25 décembre, hein, c'est logique. Et les cadeaux qu'on vous fait tout au long de la journée, ce sont les meilleurs moments d'RMC sur l'année. Et là, pendant deux heures, on va se concentrer sur la Coupe du Monde qui s'est terminée il y a quelques jours, place au film RMC du Mondial, avec autour de moi deux représentants de la cellule équipe de France. Jeannot Rességuier, la voix du foot, la voix de l'équipe de France. Salut Jeannot.
Salut Jean-Louis, bonjour à toutes et à tous et joyeux Noël bien évidemment.
Et Arthur Perrault qui a suivi les Bleus tout au long de cette Coupe du Monde. Salut Arthur.
Salut messieurs, bonjour à tous et joyeux Noël.
Si vous êtes fan de radio, de foot à la radio, vous allez vous régaler avec les meilleurs moments des matchs de l'équipe de France, ces victoires magnifiques, mais également les débats d'RMC avec la Dream Team qui était mobilisée avec ce fameux studio à Doha, avec vue sur la corniche, la baie de la capitale du Qatar. On s'est régalé pendant un mois avec ce dispositif exceptionnel et pendant deux heures, donc on vous fait profiter des meilleurs moments avec donc les infos sur le moment. On va se rappeler de choses, je suis sûr que vous avez oublié en ce 25 décembre. Et en plus de ça, on sera avec des invités. Wahbi Khazri sera notamment avec nous tout à l'heure. Et on va commencer par la fin, parce que c'est un événement. L'équipe de France en finale face à l'Argentine. On vous propose de revivre ce moment exceptionnel sur RMC le dimanche 18 décembre dernier.
RMC, Coupe du Monde 2022.
Finale France-Argentine.
C'est parti pour le coup d'envoi de cette finale de la Coupe du Monde entre l'Argentine et la France. Premier ballon directement en touche vers Kylian Mbappé qui n'a pas pu se saisir de cette balle. Le centre de Di Maria, non, le crochet, il est passé face à Koundé. Pénalty pour l'Argentine.
Faute de Dembélé.
Messi face à Lloris. Messi contre Pierre. Parfait. 1-0 pour l'Argentine. 1-0 pour l'Argentine dans cette finale de la Coupe du Monde. Et le sixième but de Messi qui devient meilleur buteur de la compétition. Attention au décalage. Macalister. S'il la met à gauche, il y a Di Maria tout seul. Di Maria tout seul. Quel bon lancement. C'est une leçon de football.
Colomoni à la lutte. Colomoni, oui. Peut-être l'accélération.
Colomoni, pénalty.
Pénalty.
Voilà quelque chose qui peut changer le cours du match. À condition de s'appliquer, à condition de la mettre au fond.
Là, c'est déjà un miracle. D'avoir une occasion de revenir à 2-1.
Je te dis,
à 11 minutes
c'est
de la
un
fin.
Espoir individuel qui peut nous faire
quel
la différence.
Rush.
Kylian Mbappé. L'espoir est au bout du crampon. L'espoir de faire douter l'Argentine. Kylian Mbappé face à Martinez.
Voilà.
Il était par le bon côté, mais ça va en fond. Et Kylian Mbappé qui se jette pour aller chercher cette balle rapidement. 80e minute. L'équipe de France va peut-être ressusciter dans cette finale.
Le retour de Coman.
Coman
qui lui pique le ballon. Coman qui a fait l'effort. Coman dans l'espace. Avec peut-être le ballon en face. Pour revenir dans l'axe. Oui, voilà, c'est fait.
Rabiot le décalage. Avec Kylian Mbappé. Kylian Mbappé qui remet. Thuram qui
est
derrière. Mbappé
qui est derrière.
Ouais! C'est un moment tout simplement sidérant. Ce qui se passe, c'est surnaturel, mais pourtant c'est bien réel. L'équipe de France, grâce à Mbappé, sur son doublé, qui revient dans le match et qui égalise. Le coup de sifflet de l'arbitre, il y aura prolongation.
Il y aura prolongation. RMC, finale France-Argentine.
Messi, attention, jeu, Lautaro, l'arrêt de Messi, non, la frappe est arrêtée, il n'y a pas but, il y avait hors-jeu, mais qu'est-ce qu'ils font là?
Il y a but.
Non mais il n'y a pas hors-jeu, il y a but.
Il montre but.
Il montre but.
Mais il va être tiqué.
Ouais, mais c'est pas
hors-jeu. Ça nous paraît évident qu'il y a hors-jeu. Mais là, il célèbre comme si le but était validé.
Ouais, non, mais ils vont se calmer, il y a hors-jeu. Moi, j'espère.
Il n'y a pas hors-jeu, il y a but. Le but va être validé. 3-2 pour l'Argentine.
La frappe de Mbappé, elle est contrée.
C'est fini.
Pénalty pour l'équipe de France.
Pénalty pour la France.
Coup franc
ou pénalty.
Et il est bien jaune.
Pénalty. La frappe de Mbappé. La main de Montiel.
Incroyable.
Le coup de Montiel. Oh, pénalty pour l'équipe de France. C'est un miracle. Truc de dingue. C'est un truc de fou. Kylian Mbappé face à Martinez, l'arbitre lui fait signe à ce que tout le monde reste à l'extérieur de la surface de réparation, avec encore une fois le coup de sifflet qui va venir, mais d'abord il faut sortir de la surface de réparation. Mbappé regarde l'arbitre. Allez, Mbappé a regardé le ballon, Mbappé a regardé Martinez, Mbappé qui s'élance.
Oui.
Kylian Mbappé qui marque le troisième but, trois partout entre l'Argentine et la France. C'est fini, c'est terminé. Cette finale de Coupe du Monde va se jouer au tir au but. Premier tireur, Kylian Mbappé.
Oui, Kylian. Et voilà, il peut lui en tirer 10, il va mettre les 10.
Au même endroit.
Il a toujours pas compris.
Coman face à Martinez qui bouge devant sa ligne. La course d'élan de Coman. Arrêt de Martinez.
L'Argentine prend l'avantage.
Tchouaméni face à Martinez. Et les drapeaux qui s'agitent derrière le but d'Emiliano Martinez. Faut pas le manquer celui-là.
Aurélien
Tchouaméni. Et à côté. Aïe. Ça sent pas bon. Après 4 tireurs français, le quatrième, celui-là est argentin. Si ça va au fond, c'est pour l'Argentine face à Lloris. Vas-y Hugo. Hugo fait là. Hugo allez, sort là maintenant. Avec la course de Montiel. À contre-pied, c'est fini. L'Argentine est champion du monde. À la séance de tir au but, l'Argentine s'impose. 4 tirs au but à 2. L'apothéose du génie argentin Léo Messi qui rejoint Maradona après la victoire de l'Argentine en 86. L'Argentine triomphe en 2022 dans un scénario incroyable.
RMC félicite l'équipe de France de foot qui nous a fait rêver pendant 4 semaines jusqu'à une deuxième finale de Coupe du Monde consécutive. Merci les Bleus.
Mais avant d'arriver à cette conclusion, à cette finale de la Coupe du Monde, eh ben on va refaire tout le film. On va le rembobiner et on va se replonger même avant la Coupe du Monde, avant le premier match face à l'Australie, parce que là encore, il y a plein de choses à dire, Jeannot. On va se remettre le soir de la liste de Didier Deschamps, parce qu'il va lui arriver plein d'accros, plein de petits accidents dans cette liste, une fois qu'elle est donnée, mais même avant, hein, il y a pas mal de forfaits à rappeler.
Oui, il y a ce 9 novembre où tout le monde attend avec impatience la liste des 23, 24, 25, 26, parce qu'il ne laisse rien filtrer, le sélectionneur de l'équipe de France. On sait qu'il n'y aura pas Pogba, on sait qu'il n'y aura pas Kanté, on sait qu'il n'y aura pas Kimpembe non plus. Donc ça veut dire quelque part que cette liste de l'équipe de France, elle s'annonce quand même particulière, avec des champions du monde en moins. Et puis finalement, aussi, on se pose la question de la présence ou pas d'Olivier Giroud, parce que c'était véritablement la grande interrogation. Et puis il y a cette liste donc qui est dévoilée, où il y a Olivier Giroud, où l'on a un petit nouveau, Disasi, qui n'a lui jamais été appelé avant cela par Didier Deschamps. Et à partir de ce moment-là, il envoie un message fort et il répond surtout à des questions tactique. Mm-hmm. C'est-à-dire que c'est surprenant de la part de Didier Deschamps, c'est que on lui pose la question sur l'équilibre de sa liste, le choix sur certains joueurs, la façon dont il va évoluer sur le terrain, est-ce qu'il va revenir à 3 défenseurs, Axio, est-ce que il va être sur un 4-3-3 classique, un 4-4-2, enfin on a presque à peu près dans toutes les questions passées tous les schémas possibles et inimaginables, et à chaque fois, il répond sans langue de bois.
Clairement, ouais.
Clairement, il est vraiment même à la limite presque bluffant.
Il donne limite sa compo.
Presque surprenant, ouais. Effectivement. Sauf qu'il ne donne que 25 noms. Et là, on est un petit peu surpris de dire, tiens, on peut aller jusqu'à 26. Il y a eu ses forfaits avant. Il peut y avoir des risques de blessure après. Il reste là-dessus. Et il reste secret, on s'en rendra compte quelques jours après. Mais c'est vrai que dans la composition de cette liste, Arthur, il nous a quand même bien bluffé, bien surpris, Didier.
Mais c'est vrai que même le soir même, parfois, il y a une pointe d'agacement. On verra et on en parlera même pendant le parcours de l'équipe de France et pendant la phase de poule. Il a tout en tête, en fait. On se rendra compte après qu'il avait tout en tête, il avait tout imaginé. Il a sa construction, il a son rôle pour Antoine Griezmann. Et c'est là où il est bluffant. C'est là où il est bluffant, Didier.
Et il avait même anticipé des possibles forfaits parce qu'il y avait des joueurs incertains quand même encore. Hein.
Il sait que Varane n'a pas joué le moindre match et qu'il arrive donc et qu'il va
manque de rythme
profiter de la Coupe du Monde pour retrouver la compétition. Il sait que Tchouaméni va avoir besoin d'un programme particulier, que Karim Benzema, ça sera la même chose pour lui aussi et qu'il faudra y mettre toute la prudence nécessaire. Et on se rend compte après, à partir du moment où ils sont rassemblés à Clairefontaine et que les joueurs arrivent petit à petit, qu'ils rajoutent un 26e avec Marcus Thuram. Et là, on se dit tous, mais pourquoi rajoute-t-il à ce moment-là un attaquant alors qu'on lui pose beaucoup de questions sur l'absence de véritable latéral gauche, de latéral droit. Oui. Il répond Lucas Hernandez à gauche, il répond Pavard à droite. Mais dans le secteur offensif, on avait le sentiment qu'il y avait quand même matière, il y avait tout ce qu'il fallait. Finalement, on se rend compte qu'il anticipe à ce moment-là le possible forfait, ou tout du moins le doute qui existe, qui ne sort pas du camp français, mais qui existe en tout cas pour Karim Benzema. Quoi.
Et là, il faudra attendre donc le 19 novembre pour que l'on apprenne le forfait
dans la nuit.
Karim Benzema.
Ouais, c'est vrai qu'on c'était un moment assez particulier parce que pour tout vous raconter, le groupe de suiveurs, on était invité à une soirée sur un rooftop et puis notre soirée a totalement basculé parce qu'on apprend qu'il y a cette séance d'entraînement où Didier Deschamps en fait va tester une bonne fois pour toutes Karim Benzema parce que jusque-là, il y avait un protocole précis qui avait été mis en place où nous, on le voyait sur les séances, on était devant Karim Benzema où oui il faisait des courses intensives mais c'était pas très poussé en fait, on sentait qu'il était sur la retenue et on apprend que ce soir-là il est testé et qu'en fait ça se passe mal. Il y a une opposition, il y a cette blessure qui ressort, touchée au quadriceps gauche, et la nuit est un film. Il part à Aspetar, des journalistes sont là pour voir son état de forme.
C'est le centre médical de Doha.
Exactement. Et on voit qu'il boitille, qu'il ressort de ce centre médical boitillant, et puis on apprend aller à 1h du matin heure locale, 23h heure française, que ça va pas le faire. Communiqué de la Fédération Française de Football, Karim Benzema ne peut pas poursuivre son aventure. Au camp de base de l'équipe de France, les joueurs sont en train de dîner et il y a une ambiance très particulière. Évidemment qu'on parlera beaucoup de l'impact de ce départ de Karim Benzema. Certains diront que finalement ça n'a pas beaucoup impacté ce groupe. Sur le moment, ils sont marqués. Le dîner est vraiment dans une ambiance hyper particulière.
D'autant que Deschamps prend la décision de ne pas remplacer Karim Benzema, alors qu'il peut le faire jusqu'à 24 heures du premier match contre l'Australie, alors qu'il l'a fait quelques jours auparavant après le forfait d'Nkunku qui se blesse à l'entraînement à Clairefontaine, en torse à la cheville. Il prend Kolo Muani qui lui est avec son club de Francfort au Japon et qui rejoindra l'équipe à Doha ici au Qatar. Donc on a l'impression en fait que il était vraiment au moment où il décide d'annoncer le nom de Thuram dans l'anticipation et qu'il avait imaginé le fait que ça se passe pas bien pour Karim Benzema. Et encore une fois, on n'a pas encore débuté la compétition, on n'a pas encore retracé tout le film de l'équipe de France, mais ça continue quoi, c'est la poisse. Et là on se pose quand même réellement des questions en se disant, mais avec tous ces forfaits qu'il y a eu avant, mais presque pendant la compétition et juste avant d'attaquer la Coupe du Monde. Ouais. Mais où va-t-on ? Va faire l'équipe de France, quoi ?
Quelle histoire d'un rendez-vous manqué pour Karim Benzema, c'est quand même incroyable. Il sort d'un ballon d'or à ce moment-là, c'est le meilleur joueur du monde qui n'a pas participé à la Coupe du Monde 2018 parce qu'il était embrouillé avec Didier Deschamps et qui ne va pas participer à la Coupe du Monde 2022 à cause de cette blessure alors qu'il est sur le toit de l'Europe quelques mois plus tôt avec cette victoire en Ligue des Champions avec le Real.
Il reçoit le ballon d'or, il joue quelques minutes le match qui suit la remise du ballon d'or et derrière il sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas et par précaution, en discutant discussion avec le staff, avec Carlo Ancelotti, il se met d'accord sur le fait que voilà, il faut qu'il se préserve, qu'il se ménage, parce que il y a cet objectif-là avec l'équipe de France pour la Coupe du Monde. Le docteur Le Gall est au courant.
Il y a du mystère.
Deschamps est au courant.
Il y a du mystère quand même.
Il reste quand même cette part de mystère effectivement. Eh oui. Mais en fait, finalement, c'est quand on regarde avec un peu de recul, c'est l'histoire de Karim Benzema avec l'équipe de France. Ouais. Il est de la liste de 2014 au Brésil. Il marque les esprits. Non seulement il marque les esprits face à l'Ukraine pour la qualif, mais ensuite derrière, il marque des buts avec Giroud. Souvenez-vous que tout de même, ça se passe plutôt bien. Il y a cette balle de match d'égalisation en quart de finale où il se heurte à Goldorak Neuer avec son point en avant qui détourne le ballon alors que ça va en pleine lucarne et après il disparaît avec l'affaire de la sextape. Il n'y a pas d'euro pour lui. Il n'y a pas de Coupe du Monde 2018, donc il n'y a pas de titre de champion du monde. Il y a l'espoir qui revient avec son retour, la Ligue des Nations. Il gagne la Ligue des Nations avec l'équipe de France, mais entre-temps, il y a la gamelle avec l'Euro. C'est incroyable. Ouais. L'histoire de Karim Benzema avec l'équipe de France est totalement incroyable.
Benzema forfait, donc lui c'est les rendez-vous manqués et puis il y a les rendez-vous réussis parce que ça précipite aussi un Olivier Giroud comme titulaire, on y reviendra un peu plus tard, qui va marquer donc la Coupe du Monde de l'équipe de France, on y reviendra. Mais on vous l'a promis, les meilleurs moments de l'intégrale Coupe du Monde dans ce film RMC et je vous replonge le 20 novembre. Daniel, c'est une catastrophe pour Deschamps ?
Non, le mot est beaucoup trop fort. Ouais. Catastrophe, en fait, ça veut dire que derrière t'as... t'es pas sauvé.
C'est-à-dire que tu vas être éliminé quoi qu'il arrive.
Catastrophe, c'est que c'est forcément ça va mal se passer. C'est terminé. Il y a plus d'espoir. Et là en plus, c'est pas possible puisque ça n'a pas démarré. Ça n'a pas commencé. Il y a d'autres solutions, bien sûr. Alors évidemment, on évacue sur le fait que c'est une mauvaise nouvelle, que lui a dit trop perso. Ça confirme qu'il est maudit avec les Bleus parce que finalement, Karim Benzema dans sa carrière, c'est vrai qu'on peut s'arrêter là-dessus un instant. Les Bleus, ça aura été un échec.
C'est un rendez-vous manqué d'une carrière.
C'est un rendez-vous manqué. 2010, il n'est pas pris. Pour le coup, là, il évite une catastrophe parce que là, ça en a été une. Les compétitions ensuite auxquelles il a participé, on n'en garde pas un grand souvenir. 2016, il n'est pas là, c'est une finale. 2018, il n'est pas là, c'est une victoire. Ce qui nous amène à dire que l'équipe de France, sur les 10 dernières années, depuis que Benzema est joueur de foot, on va dire, et depuis qu'il est bon, la France a toujours fait sans lui. Et quand elle a fait sans lui, elle a gagné. Ou en tout cas, elle n'était pas très loin de gagner. Donc ça veut dire qu'il y a d'autres solutions, que le football français est assez riche pour pouvoir se passer de lui. Ce qui peut sembler fou, puisque c'est l'un des meilleurs joueurs du monde, c'est même le ballon d'or en titre. Donc voilà, pour lui, c'est terminé, il est rentré. Maintenant, on a immédiatement, dès qu'on a appris la nouvelle hier, tenté d'envisager l'équipe qui pourrait être alignée. Et bizarrement, alors vous allez peut-être trouver ça complètement fou, mais autant avec Benzema... La compo ne m'a pas toujours semblé évidente. Ou en tout cas, je faisais une sorte de copier-coller 2018.
Et là, tout s'est éclairé?
C'est pas que tout s'est éclairé, mais d'un coup, je me dis, écoute, oui, ça va ressembler à Mbappé, Giroud, Dembélé. Oui, un milieu de terrain à 3 avec probablement Griezmann en relayeur. Et 4 défenseurs qui vont être costauds, ça va être 4 centraux. Ça, c'est la marque de fabrique Deschamps. Donc, probablement pas de mecs qui vont monter ou rarement, parce que c'est Dembélé qui le fera d'un côté, qui montera beaucoup. Et finalement, cette équipe, elle a l'air, à condition que Mbappé et Dembélé fassent le travail qu'il faut faire de replacement, c'est une équipe qui peut être équilibrée finalement. Non pas qu'elle ne le soit pas avec Benzema, mais on avait l'impression que Dembélé n'allait pas jouer, que la position de Griezmann serait un petit peu plus compliquée à trouver, peut-être un 10 avec un milieu à 3. Si, on voyait comment était l'équipe de toute façon. Mais là, d'un coup, c'est un petit peu comme si c'est ça va être comme ça et ça ne va pas être autrement.
Ouais.
Comme si ça s'était, à défaut de savoir si ça va être efficace, en tout cas, ça s'est clarifié.
Exactement. Voilà. Et surtout, Deschamps va peut-être aussi s'en servir en disant, vous voyez tous les coups durs qu'on a, maintenant suivez-moi dans ce que je veux faire, on sait qu'on a déjà gagné comme ça, et pas de place à la fantaisie, à ce qu'on a pu voir à l'Euro 2021 notamment, et il va peut-être s'en servir pour ressouder tout le monde autour de ce discours commun.
En tout cas, il y a un Giroud qui, on le sait, est très très fort mentalement et résiste à la pression, qui doit se sentir habité maintenant, comme pour dire, l'équipe de France, c'est moi. C'est moi.
C'est dingue d'ailleurs. C'est dingue d'ailleurs le miroir inversé avec Benzema.
Je ne devais pas y être.
Ouais.
On m'a critiqué en 2018. Je devais pas y être. Enfin, je devais y être, mais on me critiquait. On a été champion du monde. Dès qu'on a parlé du retour de Benzema, Giroud, maintenant c'est terminé. Tu peux rentrer chez toi. Ce gars-là s'est accroché. Il a été remplaçant en club. Partout où il était, il gagnait des titres. Même le peu qu'il jouait. Il va à Milan, il est champion d'Italie, il revient en équipe de France et c'était comme une évidence qu'il devait revenir, ouais. Benzema ou pas. Il revient, Benzema se blesse, il va être titulaire.
Ah ouais.
Dans un style qui est complètement différent de celui de Benzema quand même, hein, dans ce qu'il propose dans le jeu. Donc il va l'être. Ça ne déplaît pas à Mbappé malgré les critiques de l'année dernière parce que Mbappé aime bien avoir un œuf comme ça. Et Dembélé peut-être aussi. Bon ben voilà, il y a une sorte de destin Giroud avec ses bleus qui va battre le record pendant cette Coupe du Monde, peut-être. Il va pas faire comme en 2018, à pas marquer. Donc,
alors Daniel, je voudrais qu'on prenne l'avis de Christophe. Tu parles de catastrophe ou pas pour le forfait de Benzema? C'est exagéré.
Non, je suis d'accord avec Daniel sur ses propos et ses arguments. C'est pas une catastrophe parce que la France a été habituée à jouer sans Benzema depuis tant d'années et on a eu de belles réussites et de bons moments. Humainement, sportivement, pour lui, je suis peiné parce que une compétition comme ça, je pense qu'il dans sa tête, il, depuis un an, il y pensait aussi. Par contre, dans la composition d'équipe, moi, je verrais plus un 4-4-2, mais en losange avec en 10 Griezmann et deux devant Giroud qui fait ce fameux pivot et Mbappé libre comme il le souhaite au PSG. Et c'est l'occasion pour
les losanges, ça marche rarement en équipe de France quand même.
Oui, mais
chaque fois qu'on les a essayés.
Non, mais de toute façon, il est possible que ça se module un peu comme ça.
Si on met Tchouaméni dans l'axe, Rabiot à gauche et à droite, ou Fofana ou Guendouzi, on peut se permettre de jouer en losange avec Griezmann derrière et pouvoir.
C'était la compo qu'on prévoyait quand Benzema était là, en fait, Christophe. C'est quand Benzema devait jouer avec Mbappé devant, on disait Griezmann sera derrière eux et il y aurait trois milieux de terrain, ce que tu viens de décrire, c'était un peu ça qu'on envisageait.
Alors là, en revanche, a priori, c'est quand même un. Là, oui, là, c'est la tendance avec Dembélé, c'est un 4-2-3. Ouais, là, du coup, avec
la tendance, c'est ça. La tendance, c'est 4.
Trois attaquants ennemis en voyant la position de Griezmann.
En fait, moi, j'ai du mal à croire au 4-2-3-1 parce que ou alors quand t'as pas la balle avec Mbappé à qui on va demander forcément de reculer, mais Mbappé il aime pas trop faire ça quand même. Hein. Donc plutôt Griezmann relayeur. Moi, je le vois plutôt un 4-3-3. Moi, on verra parce infos, que ça va se moduler avec ou sans ballon, mais
exactement.
Je vois plus Griezmann en relayeur. C'est souvent ce qu'il fait en plus à l'Atlético maintenant.
Voilà le forfait de Benzema. On a dit tout ce qu'il y avait à dire là-dessus à ce moment-là. Vous avez entendu. Cet extrait de l'intégrale Coupe du Monde. On revient dans une seconde pour rentrer dans les matchs, la phase de poule de l'équipe de France, Australie, Danemark, Tunisie. On se remémore ces rencontres ensemble sur RMC dans le film RMC de la Coupe du Monde. À tout de suite.
Le film RMC de la Coupe du Monde, Jean-Louis Tour.
Bienvenue si vous nous rejoignez maintenant sur RMC. On est en train de se faire plaisir parce qu'on revit le film RMC de la Coupe du Monde avec Jeannot Rességuier, la voix des Bleus, avec Arthur Perrault qui a suivi l'équipe de France pendant toute cette Coupe du Monde au Qatar. Et on rentre dans le vif du sujet tout de suite. On va refaire tous les matchs en détail de l'équipe de France jusqu'à la finale face à l'Argentine. Tout de suite, on se remet dans l'ambiance du premier tour. Australie, Danemark et Tunisie pour l'équipe de France.
RMC Coupe du Monde de la FIFA 2022.
Avec Liki qui a fait la différence, qui va centrer. Il est au sol, la frappe et le but. L'ouverture du score pour l'Australie. Goodwin, on va peut-être revenir au départ de l'action parce qu'il y a Lucas Hernandez qui est au sol sur le 1 contre 1 avec Liki. Il fait la différence, il prend un coup au niveau du genou. Il se tord de douleur au genou droit. Et pendant ce temps-là, les Australiens, Arthur, faites ce but pour l'instant. Avec la frappe de Mbappé. Elle passe devant le but, mais elle va être récupérée par l'équipe de France avec Dembélé. Dembélé à l'opposé, Dembélé qui crochette face à Beach, celui qui a sauvé l'Australie du 3-1. Le centre, la tête, le but de la tête de Mbappé avec le poteau rentrant. Ça fait 3-1. Quand c'est pas avec le pied, c'est avec la tête. C'est rare, mais ça arrive. 3-1 pour l'équipe de France à la 67e minute. Le but est signé. Kylian Mbappé. Griezmann qui va centrer fort devant le but. Mbappé.
Oui.
Le doublé.
Oui.
De Mbappé. Le doublé de Kylian Mbappé. De la poitrine
de la poitrine. On s'en fout, il y a but, ça va au fond. Schmeichel est battu, ça fait 2 buts à 1 pour l'équipe de France.
C'est pas fini, revenez ici, l'arbitre a corrigé, l'arbitre a corrigé. Il vient de siffler la fin du match et de suite il a regardé le quatrième arbitre, on lui a parlé dans l'oreillette, il est en train d'aller voir l'image, il est en train d'aller voir l'image du but d'Antoine Griezmann. Il n'a pas encore validé le but, il n'a pas encore validé le but, c'est incroyable. Il avait sifflé la fin du match, il a regardé le quatrième arbitre, il a regardé l'arbitre assistant dans l'oreillette, on lui a fait signe que c'était pas fini, on lui a fait signe d'aller voir les images, lui-même décide d'aller voir les images. Il continue de discuter, qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il va annuler le but? Est-ce qu'il va annuler le but? Il annule le but! Il annule le but!
Victoire de la Tunisie! Victoire de la Tunisie, donc 1-0! Incroyable! C'est fou, la ramener, jamais raconté, on voit rien nous!
L'arbitre est en train tout simplement de venir à l'endroit même où Antoine Griezmann a récupéré le ballon. Position de hors-jeu. Du coup, on est revenu. On n'a pas terminé le match puisque derrière, il a corrigé le coup de sifflet final. Il est revenu sur sa décision avec l'oreillette, ce qu'on lui a dit dans l'oreillette. Il est allé l'expliquer à l'instant même à Kylian Mbappé. Il refuse donc le but à Antoine Griezmann. Oui. C'est incroyable.
Voilà pour ces trois premiers matchs. France-Australie, France-Danemark, Tunisie-France, avec Jeannot Rességuier au commentaire. Lui aussi se chauffait tranquillement sur la phase de poule. Vous verrez tout à l'heure qu'il s'est vraiment donné à partir des matchs à élimination directe, Jeannot. Mais on va revenir donc sur ces matchs. On sera d'ailleurs avec Wahbi Khazri tout à l'heure, le buteur de Tunisie-France. La défaite des Bleus, la victoire de la Tunisie. Il sera avec nous tout à l'heure. Mais revenons sur cette entame de compétition de l'équipe de France, Arthur et Jeannot. Bah, ça a mal commencé face à l'Australie, Jeannot.
Oui, enfin, disons que c'était le fameux premier match dont parle toujours Didier Deschamps dans une compétition internationale. On était quand même très attentif à la composition d'équipe, donc il y avait toujours pas de retour de Varane pour ce match contre l'Australie. Donc Konaté ou pas Mécano en charnière, il y avait quand même quelques interrogations. Après, pour le reste, on savait que de toute façon, avec Griezmann, Dembélé, Giroud et Mbappé, ça allait être très certainement ce quatuor-là qui allait, on va dire, accompagner l'objectif des Bleus durant toute la Coupe du Monde. Quand on regarde le 11 de départ, on se dit, bon, voilà, c'est costaud, c'est solide, mais ça quand même manque un peu d'expérience. Et dès la 9e minute, il y a ce but de Goodwin qui nous refroidit totalement. Et là, on commence sérieusement, à partir de ce moment-là, à se poser vraiment des questions, quoi.
Et la blessure, en plus, de Lucas Hernandez, qui va précipiter l'arrivée dans l'équipe de quelqu'un qui aura un rôle très important sur toute la Coupe du Monde.
Ouais, et c'est vrai que Théo Hernandez, son frère qui arrive, mais qui n'a pas du tout le même profil. Et c'est vrai qu'on en a beaucoup parlé dans l'après-match. C'est-à-dire que Didier Deschamps tout de suite a pensé à Théo Hernandez, mais en se disant que son frère lui était beaucoup plus dans les efforts défensifs et que Théo lui allait beaucoup plus se projeter. Donc ça allait avoir une incidence sur la suite du parcours des Bleus. Dans ce rôle-là, en fait.
Mais une incidence défensive, mais finalement, quand on regarde de plus près, il est à la base de la réaction de l'équipe de France, puisque c'est lui qui est au départ de l'action et à l'arrivée avec le ballon pour Rabiot et pour cette égalisation. Donc ça, c'est déjà le premier point positif, c'est que malgré le coup dur de Lucas et de cette blessure, où on se rend compte très vite que c'est la fin de la compétition pour lui, il y a cette réaction et puis il y a aussi dans ce match-là, une entente qu'on n'avait peut-être pas soupçonnée, que l'on n'avait jamais, en tout cas, vue réellement sur le terrain. Kylian Mbappé avec Olivier Giroud. Quand on voit le deuxième but de l'équipe de France, le but de Giroud, c'est quand même un mouvement qui est remarquable, avec une entente qui est vraiment naissante, mais qui sent vraiment l'efficacité. Après, on retrouve encore une fois Théo sur le renversement de situation avec Dembélé et la tête de Kylian Mbappé, et puis le doublé de Giroud qui, en plus dans ce match-là, égale le record de Thierry Henry. Donc on part dalle, mais finalement à la sortie, c'est une victoire confortable.
Oui.
Il faut pas qu'elle le soit de trop non plus, mais au moins elle est plutôt rassurante.
Et elle pose les jalons de ce qui va faire toute la Coupe du Monde de l'équipe de France. T'as parlé de Giroud, du lien avec Mbappé, de Rabiot également, qui marque et qui aura un rôle central tout au long de la Coupe du Monde. Faisons un saut de puce jusqu'au Danemark. Ce deuxième match de poule, le 26 novembre. Et là aussi, on pose les jalons de quelque chose d'important pour l'équipe de France, c'est la Coupe du Monde de Kylian Mbappé. étincelant sur l'ensemble de la compétition et qui, avec ce doublé, enlève une belle épine du pied.
Oui, parce que c'est le match qui inquiète. Hein. On est tous d'accord que le Danemark nous a secoués sur la Ligue des Nations avec deux victoires et que, en fixant l'objectif de gagner le premier match, on se dit, mais attention, ça sera aussi le deuxième qu'il faudra gagner et surtout confirmer. Alors après, dans la composition de l'équipe, y a déjà des modifications. Une par obligation avec Théo Hernandez qui débute à gauche. Koundé qui finalement se retrouve latéral droit et on apprend après que avec Pavard et Deschamps ça se passe pas très bien et donc du coup Pavard n'existe plus et n'existera plus dans la compétition. Pour le reste, ça bouge pas. Donc ça veut dire que quelque part Didier Deschamps est vraiment bien assis sur ce 11 de départ et en tout cas sur l'animation du jeu et le secteur offensif. Et oui, après c'est vrai que quand on voit ce que fait Kylian Mbappé sur ce match, les deux buts qu'il réalise, et même si entre temps les Danois égalisent, et d'ailleurs on continue à encaisser un minimum un but, donc on a un match où l'équipe de France est au niveau, Kylian Mbappé est encore plus au-dessus du niveau de l'équipe de France. Et on a quand même une équipe danoise qui, à un moment donné, nous fait douter. Donc, ce qui veut dire que on n'est pas totalement serein et que même si on enregistre une deuxième victoire consécutive, qu'il y a la qualification au bout et que, allez, mathématiquement, la première place est acquise, on se rend compte quand même que pour l'équipe de France, dans les matchs à élimination directe, il va falloir encore un peu plus hausser son niveau de jeu.
Et je sais pas si Arthur, toi qui étais au contact de l'équipe de France, c'est un sentiment qui était partagé en interne, mais moi j'ai vraiment eu l'impression que ce match face au Danemark, il marque un premier virage. Équipe qui nous avait battu en Ligue des Nations, révélation de l'Euro précédent, qui joue très bien, on en a beaucoup parlé les mois précédents, et à l'arrivée, on retrouve quand même une certaine solidité, même si on prend un but. On retrouve quelques ingrédients de 2018.
Non mais il y a un vrai soulagement, Jeannot le dit, parce que tout de suite, je me souviens en conférence de presse d'après match, la question est posée à Didier Deschamps, qu'allez-vous faire sur le troisième match? Et voilà, tout de suite on sent que le sélectionneur est plus à l'aise, il sait qu'il va pouvoir faire tourner. Voilà, tout de suite la compétition prend un tout autre tournant, parce que on est à l'aise, on arrive à anticiper. Et Deschamps, on en a parlé longuement, il avait tout en tête, il avait tout planifié, et évidemment qu'il avait prévu cette hypothèse-là, que dès le deuxième match on allait être tranquille et que derrière c'était le tapis rouge pour ce match face à la Tunisie, quoi.
On va en parler du match avec Wabi Kazri dans quelques instants, mais quand tu regardes les changements qu'effectue sur la Tunisie Didier Deschamps, tu as raison de le préciser Arthur, il savait très bien que ce scénario-là arrivait.
C'était calé.
Sur un match de compétition internationale, il effectue 9 changements, ce qu'il n'avait jamais fait, même pas sur un match amical. Et dans ces changement-là, certes, il ne modifie pas la structure de jeu. Il met Guendouzi à la place de Griezmann, il met Fofana et Veretout dans le rôle de milieu de terrain, mais derrière, il ne met que deux attaquants, et il met Coman avec Kolo Muani. Camavinga à gauche, c'est un laboratoire, c'est une expérimentation.
Testé quelques jours avant l'entraînement seulement.
Exactement. Voilà. Et Disasi, pareil, à droite.
Ouais.
Donc ça veut dire que pour lui, c'était le scénario qu'il avait imaginé, les changements qu'il devait effectuer, envoyer un signe fort à l'ensemble du groupe en leur disant, c'est le seul match, vous allez voir quelque chose de grand, c'est-à-dire vous allez voir ce que peut représenter un match de Coupe du Monde, parce qu'après, ils disparaissent. Ouais, ouais. Il y en a un ou deux qui vont avoir un rôle déterminant dans, on va dire, des changements pas stratégiques, mais parfois par obligation, mais il n'empêche que il joue la Coupe du Monde à quoi? Allez, 14, 15, 15 joueurs, Didier Deschamps.
Et l'histoire de ce match aussi, c'est ce fameux but d'Antoine Griezmann. On est à la fin du match, on pense avoir égalisé, on est dans l'euphorie de l'égalisation, l'équipe de France invaincue, on va pour leur rendre l'antenne, et là, on a une petite voix dans le casque. Revenez nous
pour
voir.
Pour vous raconter la scène, c'est vrai qu'avec Jeannot, on a vécu un moment
incroyable.
Parce que incroyable.
Lui entend ce que je dis.
C'est un moment incroyable, parce qu'on va tout vous raconter. C'est toi qui présentais Jean-Louis, et on imagine tous que la fin du match est sifflée, et Jeannot dit, mais revenez. Et
on a l'impératif d'un billboard publicitaire.
Voilà. Une petite pub, oui.
Une toute petite pub.
Faut l'envoyer assez vite.
Mais il faut
surtout pas qu'on parte dans l'écran suivant.
Voilà.
Voilà, moi je mets gosille en disant revenez. Et moi, c'est quelque chose, revenez. Et heureusement, le billboard ne fait que 10 secondes.
On l'a entendu tout à l'heure sur le match.
Et on voit l'arbitre tout de suite aller vers la vidéo. Et donc on reprend l'antenne. Tu reviens très vite vers nous et on sent qu'il se passe un truc incroyable. Parce que on a senti tous les deux que l'arbitre avait d'abord dit aux joueurs de reprendre le jeu, et dans la foulée, le coup de sifflet final, et voilà, la règle était importante et on l'apprend seulement
finalement le but est refusé, la Tunisie s'impose, et on va continuer de parler de ce match avec notre invité Wabi Kazri, l'attaquant tunisien, le buteur, et dans le film RMC de la Coupe du Monde. Salut Wabi.
Salut tout le monde.
Alors, je disais, peu de conséquences sur le parcours de la France, ce match-là. En revanche, pour vous, ça a permis de finir cette Coupe du Monde sur une très très bonne note.
Ah oui, 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 carrément, exceptionnel. C'est vrai que pour la France, ça n'a pas changé grand-chose. Mais pour nous, ça a été exceptionnel parce qu'on finit avec 4 points. On bat peut-être les futurs champions du monde. On les a rebattus. Donc sur ça, déjà, c'est une victoire de prestige pour nous. Et puis, au vu du match qu'on a fait, même si ce n'était pas forcément l'équipe titulaire, bah, on a fait un vrai match de football et on a mis tous les ingrédients pour gagner ce match. Et c'est pour ça qu'on l'a gagné. Donc, voilà, à la fin du match, j'ai eu beaucoup de questions où on remettait un peu en cause l'effectif de la France ou la composition. Mais je pense que le mérite nous revenait rien qu'à nous, quoi.
Justement, Wabi, vous étiez au courant qu'il y allait avoir autant de changements, que Deschamps allait faire automatiquement un turnover aussi important dans la mesure où l'équipe de France était qualifiée, et vous l'avez pris de quelle manière justement tous ces changements ?
Non, les changements, bah, c'est humain et c'est normal et c'est cohérent quand on est footballeur de haut niveau, quand on connaît l'importance de la récupération, on sait que c'est dur d'enchaîner 6-7 matchs en 3 semaines, 1 mois. Donc on savait que voilà que l'équipe de France allait sûrement faire tourner son effectif. Nous on l'a préparé de la même manière parce qu'on jouait aussi notre qualification et à un but près on aurait pu sortir des poules. Donc on l'a joué, on a mis les ingrédients nécessaires pour gagner ce match, peu importe qui avait en face. Et on l'a vu que quand à une demi-heure de la fin toutes les stars et tous les top joueurs de cette équipe sont rentrés, ben on a quand même pas concédé de but et on a réussi à maintenir ce score, même si on a vu quand même la différence avec les entrées des certains joueurs, mais voilà, nous on l'a abordé de la même manière qu'on a abordé les deux autres matchs, et ce qui fait que voilà, on a eu une victoire, je pense, méritée sur ce match parce qu'on a fait ce super début de match, notamment. On a un peu souffert à la fin avec les entrées, mais on a fait un vrai match.
Et est-ce que tu n'as pas des regrets, là on est quelques semaines après cette phase de poule, des regrets sur les premiers matchs? Parce que vous faites 0-0 contre le Danemark, vous perdez contre l'Australie, et quand on voit que vous avez réussi à battre l'équipe de France, il y a forcément de quoi avoir des regrets?
Ouais, les regrets, surtout quand on voit le parcours du Maroc qui a été exceptionnel et qui a montré un peu la voie à beaucoup d'autres pays. Je pense qu'on rate une mi-temps sur ces trois matchs. C'est la première mi-temps contre l'Australie et on le paye cash parce que je pense que c'est cette mi-temps-là qui nous fait ne pas sortir des poules. Et oui, des regrets sur cette première mi-temps contre l'Australie parce que je pense qu'voilà, sur six mi-temps, on en rate une et c'est on le paye cash.
Et en plus, toi, tu joues pas ces deux premiers matchs. Ça doit être hyper frustrant.
Ouais, frustrant parce que je m'attendais pas à ne pas jouer. Après, ça a été les choix du coach. Je les ai respectés. J'ai continué à travailler. J'ai toujours eu le même état d'esprit. J'ai toujours encouragé mes collègues et j'ai été récompensé sur ce dernier match parce que, voilà, quand tu joues pas, c'est les gens parlent et toi, c'est bien beau de dire que tu veux jouer. Mais quand tu joues, faut répondre présent.
Wabi Kasri, si on revient sur le match contre l'équipe de France, vous, sur le terrain, concrètement, vous l'avez vécu comment, ça?
Voilà, quand on voit les vidéos, elle y est. Et après, je pense que ce but a été checké rapidement, mais voilà, c'est dommage d'avoir eu cette fin de match, surtout que on n'a pas, entre guillemets, voilà, on a minimisé notre victoire par rapport à cette fin de match et ce but ce qui a été fait après par la Fédération française, mais au final, voilà, je pense que la victoire a été méritée.
Et c'était en plus ces dernières secondes, tes dernières secondes avec le maillot tunisien, puisque tu as annoncé ta retraite internationale derrière. T'avais plus la foi pour continuer?
Bon, je pense que j'ai fait le tour. J'ai fait 5 Coupes d'Afrique, 2 Coupes du Monde. Voilà, j'ai pris énormément de plaisir. J'ai représenté mon pays du mieux que je peux. J'ai rendu fier les gens. Moi, je suis fier d'avoir porté ce maillot. Et donc, voilà, terminer sur ce but-là contre l'équipe de France, cette victoire, je ne pouvais pas franchement espérer mieux. C'est vraiment comme dans un rêve. Et franchement, je suis vraiment content de terminer sur ça parce que voilà, terminer contre l'équipe de France, le pays où je suis né, qui m'a tant donné, contre des gars que j'affronte et contre des top joueurs, des stars mondiales. Et surtout, je pense que voilà, j'ai senti aussi les gens très heureux pour moi d'avoir terminé sur ça. Le respect des joueurs qu'il y avait en face aussi à la fin du match où j'ai pu discuter à la fin dans le vestiaire avec certains, c'est quelque chose, voilà, pour un joueur d'avoir cette reconnaissance-là, c'est top. Le coach de l'équipe de France a eu des bons mots aussi pour moi, m'a félicité. Donc voilà, c'est ce que je dis à chaque fois, c'est que des fois, moi qui me prends un peu la tête avec certains journalistes où j'estime qu'il y en a qui ont une culture football pas très élevée, avoir la reconnaissance des mecs contre qui on joue, surtout des stars, et d'un coach qui a été champion du monde en tant que joueur, en tant qu'entraîneur, c'est magnifique.
Ton dernier match, Wahbi Khazri, aussi dans un contexte particulier, tu parlais de l'équipe en face, il y a aussi le stade, il y avait une véritable marée rouge et blanche tunisienne dans ce stade. Finalement, pour les Bleus, c'était un avant-goût du match face au Maroc, mais il y a une diaspora tunisienne très importante au Qatar, ici. Ça t'a fait quoi de disputer ce dernier match, en plus, dans ce contexte-là, devant ses supporters?
Ah, ça a été exceptionnel. Franchement, on a joué les trois matchs à domicile. Nous, on a eu la chance d'avoir une ambiance extraordinaire, une ferveur tunisienne qui nous a beaucoup porté. Je pense qu'il a fait qu'on a pris 4 points. On est déçus de ne pas leur avoir rendu en nous sortant des poules, mais je pense qu'on a montré quand même des valeurs, on a montré du respect à leur égard pour ce qu'ils nous ont donné aussi. Et on les remercie encore parce que franchement, ils ont été extraordinaires et j'espère qu'ils vont continuer à soutenir l'équipe parce que voilà, on a une belle génération, on a une belle équipe de football et comme le Maroc, on est capable de faire de belles choses parce qu'on a des bons joueurs et voilà, on va avoir besoin aussi d'eux pour les compétitions à venir.
Wahbi, merci beaucoup. Merci beaucoup pour ta disponibilité sur toute cette Coupe du Monde. C'était top de t'avoir sur RMC et bonne fin de saison avec Montpellier parce que ça va reprendre bien sûr.
Ouais, je te remercie. Après, je me permets une petite parenthèse, ouais, que je vous écoute souvent.
Ouais.
J'aimerais que les gens ne banalisent pas quand même le parcours de l'équipe de France parce que j'entends beaucoup de gens. Je trouve que il manque entre guillemets une autre ferveur qu'il peut y avoir dans d'autres pays. J'aimerais quand même que les gens se rendent compte de ce que cette équipe a fait.
Merci d'avoir passé le message. Et à très vite sur RMC.
À très vite, vous m'appelez quand vous voulez, c'est un grand plaisir de discuter avec vous.
Avec plaisir. Wahbi Khazri, donc le néo-retraité avec la Tunisie, mais qu'on va continuer de voir en Ligue 1 avec Montpellier. Salut Wahbi. Et dans une seconde, on continue de refaire le parcours des Bleus. Place au match à élimination directe. La Pologne se dresse face à l'équipe de France. On revit tout ça avec Jeannot Rességuier, avec Arthur Perrault dans le film RMC de la Coupe du Monde. À tout de suite.
Le film RMC de la Coupe du Monde, Jean-Louis Tour.
On est ravis d'être avec vous sur RMC en ce 25 décembre parce qu'on est en train de revivre un enchaînement de victoires de l'équipe de France puisqu'on fait le parcours des Bleus dans cette Coupe du Monde. On est avec Jeannot Rességuier et Arthur Perrault et là on entre dans les matchs particuliers, les matchs au parfum particulier parce que c'est à la vie ou à la mort. Il y a élimination ou qualification à la fin des rencontres. On est donc le dimanche 4 décembre dernier au stade d'Al Toumama, 8e de finale de la Coupe du Monde, France-Pologne sur RMC.
RMC. Coupe du Monde 2022.
Le record pour Giroud à genoux au stade Al Toumama de Doha pour célébrer son but.
Dembélé qui récupère le ballon, Dembélé qui va décaler, Dembélé Mbappé à pique droit, Mbappé qui... le roi, la frappe de Mbappé. Oui, le but de Kylian Mbappé, le libérateur, le but du 2-0, le bon travail des Français.
Voilà pour cette rencontre qui donc a marqué l'histoire du foot français, Arthur et Jeannot, puisqu'Olivier Giroud est devenu cet après-midi-là le meilleur buteur de l'histoire des Bleus.
Ouais, et quel parcours de la part de Giroud en équipe de France, parce que quand on regarde tous les buts qu'il a marqués, nombreux ont été marqués lors de matchs amicaux. Alors bien évidemment, certains ont insisté sur le fait qu'il était impossible de comparer ce que réalisait Olivier Giroud par rapport à ce qu'avait réalisé Thierry Henry. Mais là, 2018, ok, il n'y a pas un but et il participe à un énorme effort collectif défensif de l'équipe de France pour aller chercher le titre mondial. En 2022, il participe vraiment au parcours de l'équipe de France et en plus il est buteur et en plus. On se rend compte que le fait qu'il égale le record de Thierry Henry, le fait qu'il le batte ensuite,
ouais,
il y a un soulagement, ouais. Il y a un truc, c'est bon, ça y est, c'est fait.
Il en parle.
On va plus m'embêter avec ça, ouais. Et on va passer à autre chose. Mais tu as eu l'occasion d'en parler avec lui, toi.
Ouais, en zone mixte, c'est vrai qu'on l'a croisé juste après, et il dit voilà, maintenant que c'est fait, c'est très bien parce que personne pourra continuer de m'en parler, et il était soulagé.
Ne minimisons pas non plus le match de Kylian Mbappé et ses deux buts extraordinaires quand même dans cette victoire 3-1.
Bah, il est décisif aussi par rapport à ce but de Giroud. Il marque ce doublé. Et là, on a le sentiment que, effectivement, c'est parti pour sa Coupe du Monde, quoi. Et quand on voit l'attitude qu'a Mbappé vis-à-vis de Giroud, quand on voit l'attitude de Giroud vis-à-vis de Mbappé, quand l'un et l'autre devient buteur dans le match, on se dit, mais c'est incroyable, quoi. Il y a quelque chose qui se passe, ou il y a quelque chose qui s'est passé. Et finalement, ce match contre la Pologne, on va l'utiliser ce terme, parce que il parlait à une époque de match référence, mais là il a complètement basculé, si je peux me permettre, puisque Didier Deschamps a changé complètement d'expression, hein.
Ouais, Didier Deschamps parle encore, dans la suite du parcours de l'équipe de France, comme de ce match bascule. Voilà, on passe dans la phase d'élimination directe, en parlant d'introduction, Jean-Louis, c'est le match bascule, ça restera le match bascule des Bleus au Qatar.
Et ça a basculé du bon côté. On vous remet dans l'ambiance. Dimanche 4 décembre, Stade Al Toumama, les Bleus viennent de gagner 3-1 face à la Pologne. Le débrief dans l'intégrale Coupe.
Du monde, rendez-vous samedi prochain à 20h, conséquence de la victoire des Bleus ici au stade Al Toumama de Doha. Victoire de l'équipe de France 3-1 face à la Pologne. Doublé de Mbappé, but de Giroud qui bat le record de but dans l'histoire de l'équipe de France de Thierry Henry. But de Lewandowski pour la Pologne. On va prendre le temps d'analyser tout ça avec Jérôme Roten, toujours en direct du stade. Juninho et Captain Larquet nous rejoignent. Bonsoir à tous les deux.
Bonsoir messieurs.
Bonsoir.
On a plein de choses à dire. Ah, merci Johnny. Venant de toi, ça nous fait plaisir.
Merci Johnny. Franchement, ça me va.
Bravo à vous. Bravo. Bravo. Énorme.
Ouais. Énorme équipe de France. Énorme Mbappé. On va prendre le temps de débriefer tout ça. On va commencer par Olivier Giroud, puisque Jérôme, on en a parlé pendant le match. Non, commençons par Mbappé. Excuse-moi. On oublie ce que j'ai dit. On va commencer par Mbappé.
Bon, lequel?
Mbappé. Voilà. Parce que on a dit quand même que c'est le meilleur joueur de la Coupe du Monde, que c'est le meilleur joueur du monde actuellement. Avec ce doublé, Jérôme, ça confirme ce que tu penses.
Oui, et puis ça confirme encore une fois l'importance qu'il a pour cette équipe de France. Il est sur toutes les actions offensives. Alors oui, tu vas me dire c'est normal, c'est un joueur important qui joue dans la ligne de 3 devant, mais tout passe par lui en fait. Et en première mi-temps, quand on est assez haut sur le terrain, les décalages, c'est sur le côté gauche qu'il est fait, il prend de vitesse tous les défenseurs polonais. Il arrive à délivrer des centres où il n'y avait pas de joueurs à la réception en première mi-temps. Quand on est un peu moins bien dans la période en milieu de première mi-temps, c'est lui qui, par cette passe, arrive à donner une offrande à Olivier Giroud. Il y a but. Et puis, je ne parle même pas des deux buts qu'il marque en deuxième mi-temps, parce que ça, c'est le talent, c'est le génie.
Il vaut mieux en parler quand même, Jérôme.
Mais il faut mieux en parler. Mais ça montre tout son talent et tout son génie. Donc là-dessus, il n'y a rien à dire. Il est là, il répond présent, il est focus sur une chose, c'est de faire gagner l'équipe de France. Et depuis le début de la compétition, il le fait bien.
Captain, c'est le meilleur joueur du monde actuellement?
Oui, c'est le meilleur, le plus décisif. Je vais garder ça, dire qu'il est le plus décisif, mais dans une bonne équipe de France. C'est important aussi de le dire, parce que ses coéquipiers ont été bons aujourd'hui, ont été satisfaisants. Il y a eu plutôt du très bon que du moyen, même s'il y a toujours dans un match des choses à rectifier, toujours des choses à revoir. Mais d'une manière générale, j'ai trouvé une bonne équipe de France. Alors certains vont dire, oui, il y a eu au milieu de la première période, il y a eu un temps faible où l'équipe de France a été quelque peu malmenée.
Il y a l'énorme occasion que Loris sort là, surtout.
Il y a l'énorme. Oui, enfin, c'est surtout le gars qui frappe sur Lloris, parce que.
Exactement.
Il frappe plutôt. Auparavant, on pourra dire aussi qu'il y a une énorme occasion pour Giroud et qu'elle peut évidemment mettre l'équipe de France sur les bons rails. Mais pour en revenir à Mbappé, je voudrais simplement. Moi, me rappeler de quelques actions. Juste avant le. Ah, je sais pas si c'est le second ou le. Je crois que c'est le second but, pas le troisième. Juste avant le second but, il part dans des dribbles, des feintes de frappe comme il sait faire. Et à un moment donné, à la sortie, il est un peu pris et il tente un râteau. Vous vous rappelez de ça?
Oui, très bien.
Un râteau qu'il manque. Et ce garçon-là, sur ce coup-là, il sait très bien. Et c'est là où je pense que. Il est devenu un petit peu plus mûr, un peu plus mature. Et je pense que sur ce coup-là, il sait qu'il n'a pas fait le bon choix et que le coup d'après, il faudra qu'il dépouille un petit peu son jeu. Chaque fois qu'il dépouille son jeu, quand il fait crochet-frappe, c'est un danger permanent. Et ouais, quand il fait crochet-frappe, quand il est sur le côté, comme sur le second but, quand il est dans l'axe, comme sur le troisième, c'est danger permanent. Et c'est évidemment que c'est le meilleur buteur, le plus décisif, et c'est sur lequel, sur celui sur lequel l'équipe de France doit compter pour éventuellement aller plus loin. On va dire simplement ça, aller plus loin.
Johnny, est-ce qu'au Brésil aussi on parle de Mbappé, on se projette un peu, qu'est-ce que tu as pensé de son match et est-ce que bah, comme nous là tu le mets comme meilleur joueur du monde actuellement?
Ah oui, depuis le début de la saison, je dirais oui. Jusqu'à maintenant, personne a fait c'est ce qu'il a fait. Ici au Brésil, il est vraiment respecté, bien sûr, comme je crois sur tous les pays qui aiment le foot. Moi je pense que cette performance d'équipe de France aujourd'hui, à part le match Espagne-Costa Rica, qui c'était pas le même adversaire, on n'a pas vu une grande équipe avoir une performance comme ça encore, même le Brésil. Je, bien sûr que la Pologne, il y a eu un moment fort, mais pas plus que 3-4 minutes. Il faut juste comparer Lewandowski avec les autres grands. Il n'est pas le même niveau. Ah, mais il joue avec la Pologne, mais il n'a presque rien fait. Mais si, des fois, il joue tout seul avec l'Argentine. Je dirais que Mbappé, aujourd'hui, il encore m'a impressionné. Sa capacité physique, il fait le crochet, après accélérer, il fait des centres avec pied gauche. Le premier but qu'il marque, tout le monde pense qu'il va mettre le côté opposé, mais il tourne son corps. Et
ah, il a une frappe puissante,
incroyable.
Souplesse et force dans la cheville qui est exceptionnelle parce que évidemment jusqu'au dernier moment Julie Szczęsny pense que c'est la lucarne oui, gauche quoi qu'il vise et à la sortie
c'est pas facile ces gestes capitaine c'est pas un geste facile à faire quand même hein, parce qu'il est un peu déséquilibré hein.
Alors il faut être bien guéri. Tu dis bravo à la France. Ah, je suis gainé, tu te rends pas compte, Jean-Michel. Ouais. Tu dis bravo Johnny à l'équipe de France. On est parti sur Mbappé parce que forcément il met un doublé. Tout le jeu offensif passe par lui, surtout en fin de match. Qu'est-ce que vous avez pensé globalement de la performance de l'équipe de France, Jérôme? Est-ce que c'est selon toi une performance qui te donne de l'espoir pour la suite quand la route va s'élever contre des adversaires plus solides?
Oui, parce que moi je suis d'accord avec Johnny. Là, j'ai trouvé l'équipe de France très bonne collectivement déjà et après avec de la personnalité dans toutes les lignes. J'ai trouvé la charnière très concentrée et pourtant on les a critiqués. J'ai trouvé un excellent Upamecano, même avec le ballon il a fait des transversales, il a pris des risques, il a dans les duels il a toujours répondu présent, il a jamais lâché Lewandowski quand il était dans sa zone. Et ça Juni, tu le disais, Lewandowski qu'on annonçait avant la compétition,
c'est pas le même niveau.
Avec un talent incroyable. Il a un talent incroyable, mais c'est vrai qu'il a jamais réussi à prendre la mesure de la charnière centrale. Et donc ça montre la performance de cette charnière là aussi. J'ai adoré, je vais vous le dire, on l'a souvent critiqué, mais Rabiot, ouais, il a mangé le milieu de terrain polonais. Il a intercepté des ballons. Il a été intelligent dans ses relances, il a joué propre, il a su se projeter, peut-être un peu moins que d'habitude, mais dans le cœur du jeu, il a été rayonnant. Mm-hmm. Et puis après, les deux attaquants de côté, on met en avant Mbappé parce qu'il fait des différences, parce qu'il est décisif.
Ah ben le début de match de Dembélé est remarquable.
Mais Dembélé, il est très bon depuis le début de la compétition. Oui. Ah non, mais c'est vrai. Franchement, Juni, là où tu as raison, et tu l'avais dit avant la compétition, moi j'étais sceptique sur le jeu collectif de cette équipe de France, j'étais méfiant, mais là je suis rassuré aujourd'hui, vraiment.
Alors on a Alcine, vas-y Juni, après Alcine au 32.
Non, la seule chose, si on est exigeant, comme a dit le capitaine Larquet, il y a toujours des choses à faire. Peut-être qu'un pressing plus haut pour récupérer des fois un ballon, des fois le bloc, il sait un bloc bas, mais c'est toujours difficile aussi jouer contre des blocs bas, quand t'as Dembélé d'un côté et Mbappé d'autre. Quand on est un peu en dessous de l'équipe, peut-être, en difficulté par moment. Théo aujourd'hui il n'a pas trop participé offensivement, mais en général les deux Varane, Upamecano très fort, Les milieux, ils sont complémentaires. Tchouameni et Rabiot, ils commencent à se comprendre très bien. Et Griezmann, je crois qu'il est devenu un milieu maintenant et c'est plus un attaquant.
On va en parler du match de Griezmann parce que c'est vrai que dans ce nouveau rôle, il a été impressionnant. Si vous nous rejoignez maintenant, vous êtes sur RMC, c'est l'intégrale Coupe du Monde. L'équipe de France est qualifiée pour les quarts de finale de la compétition. On débrief avec Jérôme Roten, Juninho, Captain Larqué. On attend les premières réactions des Bleus d'ici quelques minutes et on vous donne la parole au 32-16. Alcine nous rejoint dans l'intégrale Coupe du Monde.
Salut Alcine.
Alcine.
C'est sa sœur qui s'appelle Alcine.
Exactement. C'est pas vrai. Avec Jérôme et Jean-Michel, là, il y a 4 jours. Les gars, bonsoir à vous. Moi, je suis très content. J'espère que vous aussi, vous êtes très contents.
Ouais.
On fait partie des contents. Il y en a qui n'étaient pas contents, mais nous, on fait partie des très contents. Oui, en fait.
Je suis très content, les gars. Sinon, l'équipe de France, on a fait un match moyen aujourd'hui. C'était un peu compliqué.
Ah bon ?
On a vu que les Polonais, ils ont montré un autre visage. Ils ont été un peu plus mordants. Mais on a une pépite. On a un génie avec nous. On a un joueur incroyable. Allô ? Vous m'entendez ?
On a
une pépite. On a un génie. On a Kylian Mbappé. Et je vous promets, messieurs, régulièrement je dois débattre sur Mbappé, régulièrement je dois expliquer aux gens quel joueur incroyable il est, régulièrement je dois faire et je suis fatigué de le faire, mais le mec c'est un génie. Et il y a une chose qu'on doit retenir aujourd'hui, ce soir, c'est que depuis 1978-74, je ne sais plus, aucun footballeur a marqué plus de 10 buts en Coupe du Monde excepté Ronaldo, un phénoméno. Et là le petit Mbappé, il peut mettre plus de 7 buts
depuis 78 de 7 buts. Non, depuis 58, tu veux dire.
Non, 78, qui ces deux derniers, c'était un Polonais. Après, avec Kempes qui a mis 6 buts. Et depuis, personne n'a mis plus de 6 buts, excepté Ronaldo.
Ah, 6 buts hein. J'avais 6 compris buts, 10 oui. buts, pardon.
Mbappé peut faire, Mbappé peut faire. Et il va le faire parce qu'il est incroyable. Et je voulais aussi qu'on parle de Antoine Griezmann. Parce que Griezmann, oui. il est magnifique. Moi, Griezmann, il me rappelle un petit peu la grande époque du Barça, où tu as Iniesta. C'est le maestro, il fait un petit peu tout, et t'as Lionel Messi qui vient, qui achève les gens, qui met des coups d'épée, des coups de couteau, tout ce que vous voulez.
Je comprends que tu sois fatigué si tu as tout ça à dire, Alcin. Oui,
Et j'aime voir ces deux joueurs, et mention particulière pour Olivier Giroud, parce que lui aussi il a été critiqué beaucoup de fois, mais c'est un guerrier.
Voilà pour ce débrief. Donc dans l'intégrale Coupe du Monde, les Bleus ont battu la Pologne à ce moment-là. On est le 4 décembre. Les Bleus sont qualifiés pour les quarts de finale de la Coupe du Monde. Mais attention, gros morceau à venir. L'Angleterre, on continue de se remémorer le parcours des Bleus dans le film RMC de la Coupe du Monde qui revient dans une seconde. À tout de suite.
Le film RMC de la Coupe du Monde.